On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro,
une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent par nous.
L'abeille, ce petit hyménoptère, a une vie bien organisée. Eric Belfortry, un apiculteur, nous ouvre ses ruches et ses ateliers. Bientôt, la vie sociale des abeilles, leur reproduction, les produits dérivés de la ruche et leur mode de communication n'auront plus de secrets pour vous.
On va pique-niquer. On ouvre notre pot de confiture. On se retrouve avec une abeille. 10 minutes plus tard, il y en a 10. Alors déjà, comment est-ce qu'elles font pour communiquer? Comment est-ce qu'elles font pour dire au reste de la ruche la nourriture, le sucre est par là-bas?
Contrairement à la guêpe, c'est aussi un animal social, la guêpe, hein, mais un peu différent. La guêpe n'a pas ce sens de la transmission. Donc l'abeille là, donc on le voit très bien nous quand on extrait, surtout en fin de saison. C'est-à-dire que si jamais en même temps qu'il y a le pique-nique autour sa miel, donc il y a une mielée d'acacia ou il y a une mielée de châtaignier ou un truc comme ça, il y aura pas d'abeille. Il y en a une qui va venir et puis ça va s'arrêter à celle-là et puis elle va repartir et ça va s'arrêter parce que l'abeille a d'autres sources d'alimentation. Par contre, l'abeille qui a trouvé donc une source d'alimentation, c'est pas spécialement le pot de confiture, c'est évidemment les parcelles d'acacia ou de châtaignier ou de sapin, et va revenir à la ruche et va faire une danse. Donc cette danse en fait et suivant l'intensité de la danse, elle va convaincre plus ou moins ses congénères. Donc au plus l'intensité de la danse va être forte, au plus elle va réussir à convaincre de congénères qui vont elle y aller, qui vont revenir et faire le même principe de danse. Donc cette danse va notamment situer, au niveau de la danse, ça va situer la position du point de butinage ou du point où l'alimentation est, en fonction du soleil. Donc en fonction du soleil, donc l'abeille va décoller, va revenir, et elle a une horloge interne qui va lui permettre de corriger, parce que le soleil, s'il revient 2 heures après, le soleil aura bougé, et s'il n'avait pas d'horloge interne, elle serait perdue. Et donc elle refait son traceur GPS, elle le refait à chaque fois, et elle est programmée pour ça, elle est capable de transmettre donc à ses congénères des lieux de butinage de manière très précise. Donc c'est la position du soleil qui donne, même quand le soleil il n'y en a pas, c'est toujours la question, mais quand il pleut, quand il fait tout gris, hein, mais l'abeille est capable de voir des choses que nous on voit pas. Donc le soleil est quand même présent, donc elle se fixe par rapport à ça, et le retour à la ruche se fait à quelques mètres de la ruche. Après il y a un contrôle visuel, donc visuellement elle va reconnaître sa ruche. Et la troisième chose, arriver à l'endroit de la planche d'envol de la ruche, donc le tarmac, quoi, hein, donc où l'abeille décolle et l'abeille atterrit. À ce moment-là, il y a les phéromones de la ruche qui sont propres à la ruche. Donc les phéromones sont les odeurs chimiques, hein, de la ruche. Donc chaque ruche a ses odeurs propres, hein, que nous évidemment incapables de sentir, mais elles sont tout à fait capable de ressentir. Et donc l'abeille va rentrer sans se tromper de ruche, a priori, sachant qu'une abeille qui rentre avec les poches pleines, elle peut aller chez la voisine, elle va être accueillie à bras ouverts, quoi. Ça, c'est... Par contre, si elle vient sans rien du tout, elle sera pas accueillie à bras ouverts.
Mais il y a une compétition entre les abeilles, entre les ruches?
Il y a une compétition, il y a une compétition. Alors c'est pas une compétition en soi, parce que l'abeille est tout à fait, enfin la ruche n'a pas conscience certainement d'être en compétition avec celle d'à côté. Par contre, il y a une compétition alimentaire. Donc à savoir que si on a une trop grosse concentration de ruches à un endroit, alors que les sources de nectar les sources de butinage sont faibles, à ce moment-là, il y aura un appauvrissement, il y a une compétition, donc c'est celle qui va récolter le plus qui va l'emporter. Mais ça veut dire aussi que s'il y a trop d'abeilles à un endroit, c'est-à-dire que si un apiculteur a amené des quantités trop importantes de ruches, notamment les professionnels, puisque c'est nous qui transhumons des grosses quantités de ruches, on a un problème au niveau de la survie des colonies, quoi, ce qui est pas bon, quoi.
Comment est organisée la ruche?
Alors socialement, d'abord c'est un animal sociable, donc c'est une colonie. Donc dans une colonie, évidemment au cours de l'année, la colonie va pas être identique. Ce qui va rester pareil, c'est la reine. Donc le principe de base, c'est une ruche, une reine. Ça, c'est le principe de base. Dans cette ruche, en fait, en hiver, va rester... donc ce sont des petites colonies en hiver qui vont faire entre 5000 et 8000... Enfin, une petite, ça veut dire 5000 ou 8000 abeilles, hein, qui est quand même un peu conséquent. Donc en hiver, ne reste que la reine et des ouvrières. Donc il n'y a pas de mâles qui passent l'hiver. Et donc ça va hiverner, ce qu'on appelle hiverner, sous forme de grappe. Donc ça va se faire une grappe, une boule, en fait, une boule d'abeilles. Et où là, la température, le principal souci pour elle à ce moment-là, c'est de réguler la température. Donc la température au cœur de la ruche est toujours à peu près sensiblement la même. Donc environ en hiver, ça va descendre à environ une trentaine de degrés, même quand il fait moins 10 derrière. Donc la reine va toujours être à une température correcte et prête à pondre. Donc par contre, évidemment, autour et très rapidement, suivant les froids, l'extérieur de la grappe sera beaucoup plus froid. Donc les abeilles ont un système, en fait, les abeilles qui sont à l'extérieur sont toujours les vieilles abeilles, donc les premières qui vont disparaître et qui sont amenées à disparaître. Et il y a un système de rotation. Quand l'abeille est froide, à l'extérieur, va re-rentrer. Parce qu'au bout d'un moment, en dessous d'une dizaine de degrés, elle devient amorphe complètement. Donc avant d'être complètement amorphe, elle va re-rentrer à l'intérieur de la grappe et une autre va prendre sa place. Et la chaleur est produite par la consommation du miel, en fait. Donc l'abeille va consommer du miel, va faire marcher ses muscles. Donc au niveau musculaire, va faire marcher ses muscles et par là, faire de la température. Donc ça passe l'hiver. Quand la reine se remet à pondre, à ce moment-là, il y a des jeunes abeilles qui vont naître et qui vont prendre le relais. Donc la colonie va se développer. La ponte au début, c'est pas grand-chose, c'est quelques dizaines ou quelques centaines d'œufs par jour. Et la reine va continuer à pondre en augmentant sa capacité de ponte. Et au maximum de sa ponte, arrivée fin mai, elle sera une bonne reine et capable de pondre 1500 à 2000 œufs par jour. Et en parallèle, donc la colonie va grossir évidemment pour atteindre environ 60 à 70 000 abeilles environ. Et lorsque la colonie sera bien développée, la reine va pondre également des mâles, parce que c'est elle qui choisit de pondre des mâles ou des femelles, va pondre des mâles. Et ces mâles vont servir à la reproduction, évidemment. Lorsqu'une colonie veut se reproduire, parce qu'au bout d'un moment, si cette reine, la durée de vie d'une reine est entre 4 et 5 ans environ, la durée de vie naturelle d'une reine, mais avec une capacité de ponte qui va baisser d'année en année. Donc la première année, elle pond très bien, la deuxième année, elle pond très bien, la troisième, ça va commencer à décliner, la quatrième, ça va être plus faible, et la cinquième, c'est pratiquement nul. Donc la colonie va, si elle ne renouvelle pas sa reine, va disparaître. Donc la colonie a trouvé un moyen pour se reproduire, c'est de se couper en deux, c'est ce qu'on appelle l'essaimage, donc c'est les grosses grappes qu'on trouve parfois dans les jardins ou sur les fruitiers. Donc c'est une grosse boule d'abeilles en fait. Et la colonie va se couper en deux, donc il y a la moitié de la colonie, bon si vous avez une colonie de 60 000 abeilles, il y en a 30 000 qui va partir avec la vieille reine, donc la reine qui est en ponte, hein, qui est là en place. Donc cette colonie va partir un petit peu à l'aventure et suivant sa chance, elle va être récupérée par quelqu'un ou elle va arriver dans un endroit où elle pourra continuer à vivre et va rester dans la ruche environ 30 000 abeilles et une jeune reine qui va naître une fois que la vieille est partie. Les abeilles ont prévu le coup, ont élevé des reines elles-mêmes. Donc sous des œufs de femelle, hein. Donc les abeilles ont élevé une reine et à ce moment-là, cette reine va naître, va se faire féconder et cette colonie a toutes les chances. La nature a bien fait les choses, quoi. Cette colonie a toutes les chances vu qu'elle est sur un endroit où elle a de la nourriture, elle a encore des larves de l'ancienne, et dans un endroit fermé, a priori dans une ruche, elle a toutes les chances avec une jeune colonie de repartir et de pérenniser l'espèce, quoi.
Donc les ouvrières sont des femelles ?
Les ouvrières sont des femelles, ouais.
Mais qui ne sont pas fécondes.
Qui sont pas fécondes, elles sont pas capables de pondre. C'est-à-dire qu'en cas accidentel, elles se mettent à pondre. Et lorsqu'elles se mettent à pondre, en fait, elles pondent que du mâle. Donc au bout d'un moment, c'est une garçonnière. Donc ça peut pas du tout assumer la pérennité d'espèce, quoi.
Et les mâles, ils font quoi, eux ?
Les mâles, la principale action, c'est la reproduction, évidemment. Il faut pas beaucoup de mâles pour féconder une reine. Il faut entre 10 et 20 mâles pour féconder une reine. Donc la reine n'est pas fécondée par un seul mâle pour une raison toute simple, parce que la nature fait bien les choses, pour une histoire de brassage génétique. Donc l'abeille va se faire féconder une fois dans sa vie, sur l'espace d'une journée, va faire plusieurs vols de fécondation. Elle va se faire féconder entre 10 à 20 mâles grand maximum, et donc elle va remplir sa spermathèque. Et pour toute sa vie, donc elle va pas ressortir pour se faire féconder. Le seul moment où elle ressortira éventuellement, c'est lorsqu'elle essaimera. Mais si elle essaime pas, elle restera dans sa colonie.
Regarde, les abeilles. On croyait tout savoir sur les abeilles. Et ben moi, j'ai appris un sacré truc encore. Elle est où la reine des abeilles? Avant d'être dans la ruche. Elle est dans la ruche en fait. Parce qu'elles sont là tout le temps. Hein. Mais avant. On prend 5 petites abeilles pour faire le début, hein, du début, du commencement. 5 petites abeilles sont élevées à la gelée royale. Ils deviennent des reines potentielles. À ce moment-là, on les jette de la ruche. Elles sont leur mission. C'est aller dans un endroit où il y a plein de mâles. Faut qu'ils sont dans une cave. Merde, il n'y a pas de gondresse. Ils gardent les cerfs et tout. Là aussi, t'as vu, c'est des trucs vrais. Des fois, il y a une connerie. Hein, ils branlent pas. Donc c'est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'elle va dans un coin, il y a plein de mâles. Là, elle se fait tirer en plein vol par une cinquantaine de mâles. Ça peut durer deux jours. Tu m'entends? Faut le bordel. Non. Non. Bon, c'est ceux qui attendent leur tour. Ils sucent entre potes comme ça, pour bien. Et là, c'est revrai, là, maintenant. Attention. Et là, elle engrange. Hein, la future reine, elle engrange. Dans sa spermathèque personnelle. Elle engrange le sperme des 50 mâles. Et après, dans la ruche, elle va devenir énorme, elle va pondre un œuf toutes les minutes, toute sa vie, des centaines de milliers pour renouveler le cheptel de la ruche. Il peut être de 50, 60 000 abeilles pour une grosse ruche qui auront toutes la même maman, mais qui seront de 50 pères différents. Peut-être qu'ils ne savaient pas ça. À tel point que ça pose des problèmes aux petites abeilles. Et là, c'est une connerie, par exemple, je veux dire, hein. C'est vrai, les petites abeilles, elles vont voir leur mère, elles font « Maman, maman, il est où, papa ?» Elle est drôlement emmerdée, la reine. Alors, je suppose qu'elle doit noyer le poisson. Elle doit dire « Oh, tu sais, ton père, je l'ai à peine connu, c'était il y a longtemps. En fait, on avait organisé une partouze en plein vol. Et puis, tu sais, ils étaient une cinquantaine, alors, pour remettre un visage à ton père, hein. Et puis, de toute façon, ils sont tous morts. Alors, tu fais pas chier, tu vas bosser. » Parce que j'ai oublié de vous dire que le mâle, il laisse son appareil génital sur la reine. Avec les sacoches, hein. Ah oui, il laisse tout, hein. Bah, c'est pour ça qu'elle en a pour longtemps, hein. Elle veut pas une petite giclée, elle veut les sacoches avec le bazar. Hein. Il reste planté. Et là, c'est pour ça qu'il crève, l'autre. Il sort avec la moitié du bic qui est là. Et le truc reste au chaud. Et elle, après, elle va se servir. Elle dit, tiens, je vais prendre un coup de George, un coup de Raymond. Tiens, il y a longtemps que j'ai pas pris Maurice. Tu sais, comme les clowns avec les trompettes. Toi.
L'abeille est une ressource économique pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens vivent grâce à l'abeille.
C'est vrai que quand on parle d'abeille, on pense tout de suite à l'apiculteur parce que c'est ce qui vient tout de suite derrière. On dit, tiens, il y a une ruche. Donc derrière, il y a un apiculteur, il y a quelqu'un qui fait du miel et qui vend du miel. C'est la première pensée qu'on a. Or, c'est pas du tout le premier impact économique. Le premier impact économique, il est agricole. Hein. Donc c'est surtout sur la production des végétaux. Donc nous, on représente peu. Alors nous, on a quand même paradoxalement, on représente peu au niveau économique. On est 1200, 1300 apiculteurs professionnels en France, ce qui est pas beaucoup. Une quarantaine en Alsace sur 2500, à peu près 2500 apiculteurs en Alsace. Il y a environ une quarantaine de professionnels, donc c'est ce qui représente pas énormément. Par contre, au niveau des ruches, ça commence à représenter beaucoup puisque les quantités de ruches sont beaucoup plus importantes chez les professionnels, hein, puisque chez l'amateur on peut avoir une, deux, trois ruches. Chez les professionnels, on peut avoir jusqu'au-dessus de 1000 ruches, sachant que l'Alsace n'est pas tellement une région. On a des gros apiculteurs. Mais il y a des régions en France où il y a des exploitations qui vont à 2500 ou 3000 ruches, je crois. Donc, mais le premier impact, il est au niveau des végétaux et pas spécialement au niveau de l'apiculteur. Par contre, on a un impact, je vais pas dire psychologique, mais il y a une certaine sensibilité au niveau de l'abeille. Il y a eu un relais médiatique fort depuis quelques années. On parle beaucoup de l'abeille parce que malheureusement, il y a une disparition derrière. Et nous, on s'en rend compte sur les marchés, hein, lorsqu'on fait des marchés. Régulièrement, les gens viennent avec des questions sur l'abeille, avec une certaine sensibilité, notamment sur la perte de l'abeille. Et indirectement, des gens nous parlent de perte de biodiversité, de perdre d'autres pollinisateurs. Donc il y a quand même des messages qui ont été relayés, qui s'entendent. Et on a, quand je dis que c'est paradoxal, parce qu'on parle de nous, on parle surtout de l'abeille, parce qu'elle disparaît. Quoi. Ça, c'est...
Donc ça c'est une couveuse à œufs, une couveuse pour les œufs de poule. Hein. Et quand on l'ouvre, en fait, on n'a pas du tout des œufs de poule à l'intérieur, on a des cellules royales. Donc nous, on fait de l'élevage de rennes. On fait de la sélection, hein, ce qu'on dit tout à l'heure. On fait de la sélection au niveau des femelles, évidemment. Donc on note, sur les ruches de production, on a environ 250 ruches en production, à peu près 400 ruches en tout, donc 250 en production. Et on fait de la sélection à chaque fois qu'on va récolter quelque chose, à chaque fois qu'on voit quelque chose, tout est marqué sur le toit. Et on suit les lignées différentes, et en fonction de ça, tous les ans, on va sélectionner environ 4 à 5, ce qu'on appelle les soucheuses. Hein. Donc des rennes qui sont d'une qualité exceptionnelle, qu'on va sélectionner, qu'on met sur le côté, et on va élever nos futures reines à partir de ça. Alors on sélectionne toujours 4 ou 5 soucheuses pour avoir un brassage génétique. On parlait de diversité biologique, le brassage génétique pour nous c'est très important, et pour éviter les problèmes de consanguinité, donc on va élever sur plusieurs souches. Donc dans la couveuse, on va pas trouver des œufs de poule, mais des cellules royales. Donc on a quelques cellules royales qui sont là. Alors je vous explique un peu comment c'est fait. Donc en fait à l'intérieur on voit pas, mais parce que je peux pas les retourner parce qu'elles sont fragiles en ce moment. Mais donc on a des reines qui vont naître après-demain. Donc elles vont naître demain. Elles vont naître après-demain. Donc demain on fera des essaims. Donc on va nous pour éviter que les colonies essaiment et se reproduisent naturellement et qu'on perde l'essaim, on va nous-mêmes faire des essaims dans les ruches. Donc on va prélever des cadres avec des larves et des abeilles, un cadre de nourriture et on va mettre une reine en ponte dans la colonie. Donc on fait de l'élevage de reines avec des reines des essaims avec des reines en ponte et à l'endroit dans la petite ruchette où on va prendre cette reine en ponte, on va remplacer cette reine en ponte par une cellule royale donc qu'on a devant les yeux. Cette cellule va naître du lendemain. Alors on pourrait très bien les laisser dans les ruches, hein, on pourrait très bien les laisser dans les ruches parce qu'évidemment à l'état naturel les abeilles sont capables de le faire et nous ça nous permet de faire une rotation plus importante. La question au niveau de l'enfumage, qu'on voit toujours les apiculteurs en train d'enfumer les colonies, il y a toujours une petite confusion, on pense qu'on les endort. En fait, on les endort pas du tout. Nous, on utilise du foin, donc on peut utiliser tout ce qui fume, en fait, hein, des feuilles, du foin, enfin, un peu ce qu'on veut. Et nous, on utilise du foin de montagne, d'ailleurs. Mais en fait, surtout, l'action au niveau de la colonie, c'est que ça va un peu stresser les abeilles. Les abeilles auront tendance à se gaver de miel. Donc pendant qu'elles se gavent, elles sont occupées à autre chose. Ça les euphorise aussi. Et la deuxième chose, c'est que ça perturbe, c'est la guerre moderne, hein, ça perturbe les signaux, les phéromones, donc les signaux chimiques d'attaque, notamment, et de défense, en l'occurrence, puisqu'on les embête. Hein. Donc les abeilles sont capables de sécréter des phéromones de défense. Et à ce moment-là, quand on en fume, on perturbe un peu ces signaux-là. Pour les distraire un peu, hein, pour récolter, on fait un peu différemment. Soit on récolte avec ce qu'on appelle les chasses abeilles, donc des petits clapets, en fait, des petits clapets en tire-tour, où l'abeille est capable, comme des pièges à guêpes, mais à l'envers, quoi. Donc l'abeille va redescendre dans la colonie et va vider la hausse qu'on veut récolter. Donc ça, on peut revenir avec ça. Ou on récolte au souffleur, donc avec un gros souffleur à feuilles, où on souffle directement sur les hausses et on récupère les hausses vides. Hein.
Alors, on butine ?
Plutôt fragile, je cultive les psychosomatiques du mois de mai jusqu'en avril. Je ne me découvre pas d'un tic chaque fois qu'une fille me fait craquer et que j'essaie de lui parler. Je perds la foi, j'ai les pétoches et je remets ma langue dans ma poche. Faudrait du sirop pour la toux et tenter le tout pour le tout. Siffler des gros bonbons comme un essaim, j'ai les abeilles. J'aimerais tant leur dire des mots doux et leur susurrer dans le cou. Viens dans ma ruche, il me faut une reine. Même si t'es cruche, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Des solutions, mais pas de problème.
Le bouchon, alors le bouchon c'est de la cire pure, donc cette cire pure va nous servir, donc on parlait du bio tout à l'heure, c'est une différence, nous on ne peut en bio qu'utiliser que nos propres cires ou de la cire bio, on utilise que nos propres cires et cette cire d'opercule qui est une cire entièrement faite par l'abeille évidemment, va nous servir à faire des feuilles de cire qu'on remettra dans les ruches après. Alors ça c'est une sécrétion animale, puisqu'on parle un petit peu de ce que l'abeille est capable de faire, donc c'est une sécrétion animale, hein. Donc c'est, l'abeille va sécréter la cire, c'est pas quelque chose qu'elle va récolter,
ouais.
Donc c'est une sécrétion des jeunes abeilles. Hein. L'hydromel, on fait. Ouais, l'hydromel, c'est un peu différent. C'est pas une boisson fermentée. C'est une boisson. En gros, l'hydromel, c'est 50% d'eau, 50% de miel, et on rajoute des ferments dedans. Donc pour déclencher une fermentation. Et c'est une boisson qui va pas mousser, parce que le but, c'est justement qu'elle mousse pas du tout. Et donc, il va y avoir développement des levures, et ces levures vont consommer le sucre et se transformer en alcool. D'accord. Ça va donner un apéritif environ à 12-13 degrés, quoi. La cire, elle est comestible dans le sens, mais c'est pas quelque chose de. En fait, ça fait comme un chewing-gum. Hein. Donc, au début, c'était très agréable à l'avoir en bouche. Et au bout d'un petit moment, assez rapidement, au bout de 20 ou 30 secondes, ça va se déliter. Et ça va faire des petits morceaux pas spécialement agréables à manger. Quoi.
Et la propolis, hein, c'est quoi?
La propolis, c'est pas une sécrétion, contrairement à la cire ou à la gelée royale. C'est pas une sécrétion de l'abeille, c'est une récolte qui est faite sur les arbres. Donc la propolis sert au niveau de la ruche, la première fonction, c'est de colmater les fissures, colmater les petits trous, des choses comme ça. Elle a surtout, après, d'une manière indirecte, et je pense que l'abeille, même si elle n'en a pas conscience, le sait parce que ça fait des millions d'années qu'elle le fait, c'est les vertus antiseptiques qu'il y a dedans. Donc il faut savoir que dans une ruche, ça pond en permanence. Donc les abeilles en plein été, c'est 1500 à 2000 œufs par jour. C'est une température de 35 degrés dedans, c'est pratiquement 100% d'humidité. Donc c'est les conditions idéales pour que se développent toutes les maladies, tous les champignons. Et c'est notamment la propolis qui vient lutter contre ça. Quoi.
Donc on n'a pas beaucoup de sapins, on a beaucoup d'épicéas. C'est sur du feuillu, hein, donc sur les feuillus aussi elles font quelque chose. Elles font quelque chose au printemps sur l'érable. Et puis bon, actuellement ça miel plus du tout, hein, donc on est début août et ça miel plus du tout. Mais sinon, normalement ça miel notamment sur l'épicéa et puis sur d'autres choses ici en montagne. Donc des miels foncés plutôt, hein. Les miels de montagne sont des miels foncés. Hein. Voilà, on va aller voir. Alors, je sais pas qui est qui, c'est le problème parce que j'ai pas le. J'ai un collègue, enfin on est trois, donc le troisième il est parti là, il est sur les ruchers.
Vous êtes trois à bosser là sur les ruches ici, sur le
site ? On est trois, ouais. Exploitation, il y a trois personnes. Hein. Donc en fait ces petites colonies c'est exactement la même configuration qu'une grosse colonie. Hein, donc on va retrouver la même organisation à l'intérieur. Donc on va retrouver notamment des abeilles ouvrières. Hein. On va enlever un quart à la fois.
Mais comme ça, juste avec les mains, sans gants, sans rien.
Sans gants, sans rien, sans voilette. Hein. Bon, c'est un critère de sélection. La douceur, c'est aussi un critère de sélection. Là, il fait pas chaud, donc elle risque d'être un peu agressive. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? On va prendre un autre cas, c'est peut-être pas le plus représentatif. Donc ça, c'est des abeilles ouvrières. Hein. Donc ça, c'est tous les abeilles ouvrières. Pour l'instant, il n'y a pas de mâles. Je vois pas de mâles, donc je ne peux pas vous en montrer.
Mais elles font quoi, là ? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ?
Là, elles sont en train de s'occuper. Elles se gavent de miel. Hein. Donc la plupart sont la tête dans les alvéoles. Elles sont en train de se gaver de miel.
Mais elles ne voient pas, elles n'entendent pas parce qu'elles n'ont pas la perturbée, non ?
Allez, l'oreille, elles n'ont pas la perturbée. Elles le sont quand même parce que je pense qu'à l'état naturel, elles seraient pas en train de faire ça, quoi.
Qu'est-ce que c'est là, les trous bloqués qui sont un peu solidifiés?
Ça c'est du couvain, ça. Donc c'est les larves, hein, ce qu'on voit. Alors on en voit une ici avec des boules de pollen derrière.
Ouais.
Donc il fait froid, mais elles sont quand même au pollen. Hein, donc ramène du pollen. Je sais pas de quoi. C'est un pollen orangé. Normalement c'est du pollen de pissenlit, mais il y a pas de pissenlit qui fleurit en ce moment. Donc,
D'ailleurs le pollen on récupère comment? C'est pas au moment où elles rentrent dans la ruche que les petites boules de pollen vont tomber?
On met des trappes. Il y a des ruches qui sont équipées. Hein, il y a des ruches qui sont équipées là avec des trappes à pollen. Donc en fait on met un tiroir devant la ruche, hein, devant la planche d'envol, ce qu'on appelle la planche d'envol. Hein.
Mm-hmm.
Donc l'abeille va vouloir rentrer à tout prix et en rentrant elle va perdre une boule de pollen ou deux boules de pollen. Au début ça marche à 100%, au bout de quelques heures ça marche un peu moins bien, puis au bout de quelques jours ça marche plus du tout parce que les abeilles ont compris comment on faisait pour rentrer sans... Voilà, là il y a une reine, alors moi je sais parce que c'est une reine vierge, vous pouvez pas le savoir. Mais la morphologie est différente, donc elle a l'abdomen plus pointu, ses pattes sont un peu différentes.
Et plus allongées aussi.
Et elle va pas s'envoler, elle est où?
Elle est pas un peu plus grosse au buste, c'est pas celle-là là?
Elle est là, ouais. Elle est un peu plus allongée. Donc ça c'est pas une reine qui est fécondée, on verra une reine fécondée tout à l'heure. Hein. Donc elle est un peu plus grosse. Il y a un frelon asiatique qui est arrivé il y a quelques années en Aquitaine. Il est arrivé donc d'Asie par conteneur, donc certainement ou dans des poteries ou dans des lots de bois. Et ce frelon qui ressemble quand même beaucoup au nôtre, hein, il est un peu différent, un peu plus orangé, un peu plus noir aussi, c'est plus vif au niveau des couleurs,
ouais.
S'est adapté. Et ce frelon est en train de se diffuser en France. Il est en Bourgogne, il est sur Paris, il est évidemment sur l'Aquitaine. Et il va certainement se développer dans toute la France. Et ça pose des problèmes parce que lui, il attaque les colonies. Il est programmé pour attaquer les colonies. Et nos colonies, à nous, sont pas du tout armées pour se défendre sur un prédateur qu'elles connaissent pas, quoi.
Donc l'avenir de l'apiculteur ou de l'abeille n'est pas des plus roses, des plus rassurants.
Bah l'avenir de l'apiculteur, il passera de toute façon par eux et de l'abeille. En tout cas, de celui de l'apiculteur passera par une formation de plus en plus importante. Donc une formation par des techniques plus pointues au niveau de ce qu'on fait. Ça c'est une guêpe. Hein. Et au niveau de ce qu'on fait donc par des techniques plus pointues, ça c'est on sera obligé. Et le problème c'est que au niveau des prédateurs notamment, on a ramené ça, on a ramené le varroa, on a ramené d'autres choses aussi au niveau viral. Et on risque d'avoir des gros problèmes dans quelques années et de plus en plus quoi.
Le varroa on l'observe ici sur les abeilles?
Ouais. On l'observe, oui bien sûr, oui.
On peut le voir à l'œil nu. C'est quoi,
On peut le voir à l'œil nu.
C'est un acarien qui va se fixer en fait un peu comme un tique se fixe sur l'homme, c'est ça?
Voilà. Il se voit à l'œil nu. Il se voit surtout par les dégâts qu'il occasionne. Donc lorsqu'on commence à voir des abeilles avec des ailes atrophiées, avec une morphologie différente et abîmée par le varroa. Donc ça se voit. On pourra en voir tout à l'heure. J'ai peut-être deux colonies sur lesquelles, enfin une colonie, j'avais mis une plaque de détection pour le voir à l'œil. Voilà. Ça c'est les cellules, elles m'en ont bouffé. Il n'y a pas grand chose quoi. Ça, c'est ce que je disais, hein. Donc on met les larves, les larves royales. Donc là elles sont encore nourries à cette époque-ci, donc c'est pour ça que c'est pas operculé. Elles vont encore les nourrir pendant un jour ou deux. Et celles-ci sont un peu plus en avance, il y a deux jours de décalage. Celles-là elles sont fermées quoi.
Là, ça c'est une plaque, on a fait une détection. Normalement. On est censé voir du varroa dessus. Alors, elle est où? Ça c'est des varroas là ici. Ça là.
Ça va se coller sur l'abeille.
Ça, voilà. C'est ce qui va se coller sur l'abeille. Hein. Donc il y en a peu. Il y en a ici encore. Donc on fait du comptage, on fait de la détection, on fait du comptage de varroa. Voilà, ça c'est des varroas. Hein. Donc le varroa va se mettre sur l'abeille, va attaquer la cuticule, donc la carapace de l'abeille, hein, et va lui pomper le sang, donc les moulins. Enfin, on va lui pomper le sang, donc ça va lui faire premier impact, c'est un impact direct puisqu'elle va s'affaiblir parce qu'on lui pompe du sang, hein. Mmh. Et deuxième impact, ce sont des blessures au niveau de sa carapace qui vont permettre au virus de rentrer dans l'abeille quoi. Le varroa, ça fait 30 ans, à mon avis on maîtrise pas totalement le varroa quoi. C'est sûr que bon, c'est pas totalement maîtrisé, mais rien n'empêche de croire. Et puis je pense également que le régent égaucho, c'est pas les bonnes choses, hein. Mais on n'est pas, nous, spécialement en zone de grande culture, nous, ici, puisque tout monte en montagne très rapidement. Donc, on n'est pas impacté par ça, quoi.
Waouh, il y a du monde, là.
Il y a un peu plus de monde, hein. Donc, ça change pas grand-chose au niveau de la construction, hein. Donc, on se retrouve toujours... Il y a une couronne de miel, ici, hein. On a une couronne de miel en haut du cadre. On a du pollen, aussi, en haut du cadre. Et après, à l'intérieur, on a le couvain, donc les larves, hein. Donc, ça, ici, ce sont des larves perculées. Là, tout ça, hein. Donc, c'est des larves qui vont naître. Alors, je connais pas l'âge des larves parce que... Mais ça c'est du couvain operculé, ici on voit des larves, hein. Des larves qui vont être operculées certainement dans un jour ou deux. C'est des larves qui ont à peu près 4 jours ça. Mmh.
Mais en fait ça a l'air d'être vraiment une légende que les abeilles se défendent autant que ça quand on va vers leur ruche, parce que vous avez vraiment l'air de pouvoir les toucher, manipuler les...
Ouais, il y a plusieurs choses, bon il y a une habitude pour le faire quand même, hein. Je suis quand même pas n'importe quoi. Il y a une habitude quand même pour gérer ça, et puis on sélectionne, hein. La douceur c'est aussi une sélection. Là il y a un mâle là, ici là, avec ses gros yeux.
Ah d'accord.
Voilà. Donc il a un abdomen plus court, il est plus massif, il a des yeux énormes qui prennent la totalité de la tête. Là on voit bien toute les jeunes larves. Hein.
Le mâle il pique aussi?
Non, il a pas d'aiguillon le mâle. Il y a un frelon asiatique qui est arrivé il y a quelques années en Aquitaine. Il est arrivé donc d'Asie par conteneur, donc certainement ou dans des poteries ou dans des lots de bois. Et ce frelon qui ressemble quand même beaucoup au nôtre, hein, il est un peu différent, un peu plus orangé, un peu plus noir aussi, c'est plus vif au niveau des couleurs, ouais. S'est adapté. Et ce frelon est en train de se diffuser en France. Il est en Bourgogne, il est sur Paris, il est évidemment sur l'Aquitaine. Et il va certainement se développer dans toute la France. Et ça pose des problèmes parce que lui, il attaque les colonies. Il est programmé pour attaquer les colonies. Et nos colonies, à nous, sont pas du tout armées pour se défendre sur un prédateur qu'elles connaissent pas, quoi.
Donc l'avenir de l'apiculteur ou de l'abeille n'est pas des plus roses, des plus rassurants.
Bah l'avenir de l'apiculteur, il passera de toute façon par eux et de l'abeille. En tout cas, de celui de l'apiculteur passera par une formation de plus en plus importante. Donc une formation par des techniques plus pointues au niveau de ce qu'on fait. Ça c'est une guêpe. Hein. Mmh. Et au niveau de ce qu'on fait, donc par des techniques plus pointues, on sera obligé. Et le problème, c'est que au niveau des prédateurs, notamment, on a ramené ça, on a ramené le varroa, on a ramené d'autres choses aussi au niveau viral. Et on risque d'avoir des gros problèmes dans quelques années et de plus en plus. Quoi.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro,
une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent pas rond.
Aujourd'hui, l'abeille est en danger.
les populations diminuent dramatiquement. Nous pouvons encore les aider. Pourquoi ne pas poser quelques ruches sur son terrain? Pour plus d'infos, www.lesabeillesbutineuses.net.